Vous écoutez
RMC.
Mardi 9 août.
L'info sur RMC.
Si le réveil sonne, il est précisément 7h et vous êtes sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous. Tout de suite, le journal de Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. C'est la une, 10 000 de contrôles de police pour lutter contre les rodéos urbains. Objectif affiché de Gérald Darmanin après les drames de ces derniers jours. 1200 personnes évacuées tout au long de la nuit en Aveyron en raison de feux de forêt. Et puis on se souvient de sa veste en cuir et de son pas de rock, Olivia Newton-John, inoubliable. Sandy Dungrise s'est éteinte à l'âge de 73 ans.
Un jeune homme de 18 ans a donc été mis en examen et placé en détention provisoire après le rodéo urbain de Pontoise.
Deux enfants ont été blessés, dont une fillette de 7 ans qui pourrait garder de graves séquelles neurologiques après cet accident. Autre drame, c'était dimanche en Gironde. Deux jeunes se sont percutés à moto et l'un d'eux est grièvement blessé. Alors devant la multiplication de ces drames à cause de ces rodéos, Gérald Darmanin monte au créneau, le ministre de l'Intérieur qui promet 10 000 contrôles de police durant tout le mois d'août. Mais Ambre le Poivre, les élus locaux privilégient des stratégies différentes pour faire face à ce fléau.
10 000 contrôles d'ici la fin du mois, l'annonce du ministre de l'Intérieur ne convainc pas François Daoust, élu à Pontoise, où deux enfants ont été grièvement blessés par une motocross.
Est-ce qu'il aura les effectifs qui permettront de répondre à cette densification des contrôles? Les interventions ne se font pas à chaud, on ne va pas créer un suraccident. Donc 10 000 contrôles, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 10 000 interpellations et 10 000 condamnations.
Dans le Nord, la commune d'Halluin n'a pas attendu l'intensification des contrôles. Le maire a interdit la circulation des quads sous peine d'une amende de 150 euros et ça marche, selon l'adjoint au maire Jean-Emmanuel Agnuret.
L'utilisation s'est arrêtée et la présence de notre police municipale ont permis justement de baisser sensiblement ce fléau.
Si certains renforcent la répression, d'autres optent plutôt pour la prévention. C'est le cas des mairies de Vaux-en-Velin et de Lyon qui ont fait appel à Mehdi Ben Safi, président de l'association Synergie Family.
Le premier objectif, c'est de venir casser cette culture. Les passionnés de moto qu'on trouvait dans le cadre de rodéos urbains leur proposaient d'aller sur des circuits homologués.
La peine pour un rodéo urbain peut aller jusqu'à 5 ans de prison et Gérald Darmanin souhaite encore renforcer la répression.
La répression renforcée par le ministre de l'Intérieur, les policiers sont-ils démunis face à ces rodéos urbains? J'attends vos témoignages au 32-16 si vous y êtes confrontés chez vous. Et à 7h40, je recevrai le représentant du syndicat de police Alliance, Stanislas Godon, sera dans ce studio dans 40 minutes.
Pas de mieux en Aveyron ce matin sur le front des incendies. Trois Canadair sont d'ailleurs attendus en renfort dans les prochaines minutes pour limiter l'avancée du brasier. 650 hectares de végétation ont déjà été détruits. 1200 personnes ont été évacuées tout au long de la nuit, comme cet homme qui a dû quitter le camping dans lequel il dormait.
À 2h, 2h30, une voiture de police qui est rentrée dans le camping en disant qu'on fallait évacuer le camping. Et on s'est tous passé le message un par un. On a fait ça gentiment et on a pris la route. Peur, non. Parce que bon, à vol d'oiseau, je pense qu'il y avait quand même une certaine distance. Police a bien pris les choses en main, ils ont fait le tour de tous les campings, ça se voyait. Ils nous ont pas mis la pression, ils étaient pas inquiets en rentrant dans le camping. Donc non, on voyait que bon, fallait pas traîner, prendre les affaires et puis partir.
Il est 7h03 sur RMC. On en vient à la vaccination contre la variole du singe qui peut désormais se faire en pharmacie. L'expérimentation commence aujourd'hui.
Et elle va durer 2 semaines. Il s'agit de 5 établissements situés en Île-de-France, en PACA et dans les Hauts-de-France. Et pour Philippe Besset, le président des syndicats pharmaceutiques de France, l'acheminement du vaccin à grande échelle dans les officines serait un véritable défi logistique.
Le vaccin contre la variole du singe est conservé à moins 80 degrés. Une fois qu'il est décongelé, sa durée de vie est de 2 semaines. Ça inclut le transport, ça inclut les prises de rendez-vous et la vaccination elle-même. Donc je ne suis pas sûr qu'on pourra délivrer le vaccin à l'ensemble des officines françaises. Donc on verra à l'issue de l'expérimentation. Le ministère de la Santé doit faire ses comptes pour savoir de combien de lieux de vaccination il a besoin pour vacciner au mieux les personnes éligibles.
Une cérémonie d'hommage prévue tout à l'heure rue des Rosiers en présence du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. 40 ans, jour pour jour après l'attentat, devant le restaurant Kasher Goldenberg, 6 personnes y ont perdu la vie, 22 autres ont été blessées. Et aujourd'hui, Maxime Lévy, cet hommage national est attendu par les proches des victimes.
4 personnes sont aujourd'hui identifiées, soupçonnées par la justice française d'avoir participé à l'attentat. Mais seule l'une d'entre elles est en détention provisoire en France. Extradée de Norvège en 2020, le suspect clame son innocence. Il reste donc 3 suspects connus, 2 en Jordanie et 1 à Ramallah, en territoire palestinien. Cela fait donc maintenant 7 ans que la France ne parvient pas à les extrader. Une impuissance qui insupporte Youhan Taïeb, représentant de victimes de l'attentat de la rue des Rosiers.
La complicité passive des États en question, ce n'est plus possible. La Norvège a démontré que quand on voulait aider dans la lutte contre le terrorisme, on pouvait le faire. Moi, je considère ces pays-là comme des refuges de terroristes.
Si tous les suspects ne seront pas là, Youhan Taïeb se veut confiant sur la tenue d'un procès, même si encore aujourd'hui, l'enquête n'a pas su déterminer précisément combien de terroristes ont participé à l'attentat.
Maxime Lévy du service police-justice de RMC a noté cette information de la nuit aux États-Unis. La résidence de Donald Trump, perquisitionnée par le FBI, c'est l'ancien président américain qui l'a annoncé cette nuit. Il se dit victime d'une persécution politique. Football, à présent, et plus le droit à l'erreur pour l'AS Monaco ce soir. Les Monégasques qui se déplacent sur la pelouse du PSV Eindhoven ce soir pour le match retour du troisième tour des qualifications pour les barrages de la Ligue des Champions. À l'aller, les deux équipe s'était quittée sur un nul, un but partout. Coup d'envoi prévu à 20h30. Une rencontre que vous pourrez évidemment suivre en direct sur RMC.
Il est 7h06 sur RMC. Elle formait un duo culte avec John Travolta. On a appris dans la nuit la mort d'Olivia Newton-John.
La chanteuse et actrice américaine avait 73 ans. Et Romain Cluzel, elle a notamment marqué les esprits de toute une génération avec son rôle de Sandy dans le film Grease.
Une veste en cuir et quelques pas de rock, la consécration arrive en 1978 pour Olivia Newton-John avec la comédie musicale Grease. Son duo avec John Travolta attire plus de 5 millions de personnes dans les cinémas français. Née en Angleterre, elle grandit en Australie. Elle commence sa carrière dans les années 60 et participe à l'Eurovision pour la Grande-Bretagne en 1974. Elle finit quatrième derrière le groupe suédois ABBA qui remporte le concours. La reine Elisabeth II la décore de l'ordre de l'Empire britannique en 1979. Et 2 ans plus tard, elle connaît son plus grand succès en solo avec le titre « Physical ». Olivia Newton-John décède d'un cancer du sein. Elle contracte la maladie une première fois en 1992 et s'engage dans la lutte contre le cancer. Elle fait ensuite 2 rechutes, la première en 2013 et la seconde en 2017.
Voilà pour cet hommage à Olivia Newton-John que nous voulions lui rendre ce matin.
Je ne savais pas qu'elle avait fait une quarantaine d'albums.
Non, moi non plus. C'est beaucoup. Moi non plus. C'est vrai qu'on a retenu que Grease. Mmh. Grease, qui avait mieux marché au cinéma encore que les Demoiselles de Rochefort ou que West Side Story. John Travolta a publié un émouvant message. Hein. Ouais. Tu as rendu nos vies meilleures. Je t'aime tant. Nous nous reverrons plus tard. Voilà ce qu'a écrit John Travolta après la disparition de sa partenaire Olivia Newton-John. Merci Stéphane Jeunesse pour le journal ce matin. Il est 7h08 sur RMC.
Et on va repartir suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre sur RMC, le témoin du jour face à la pénurie de main-d'œuvre. Le gouvernement autorise le recrutement dans le secteur de la petite enfance sans diplôme. S'inquiète Émilie Philippe, porte-parole du collectif Pas de bébé à la consigne. Son témoignage dans un instant sur RMC.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h09 sur RMC et RMC Story. Et on va retourner au 32-16. Sébastien est avec nous. Bonjour Sébastien. Allô, allô. Est-ce que Sébastien est avec nous?
Ouais, je suis là.
Oui, bonjour Sébastien, ça va bien ce matin?
Je viens de rentrer de la nuit là. C'est un peu compliqué.
C'est dur. Et vous travaillez nu, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je travaille dans la logistique.
Dans la logistique. Et vous êtes justement dans le Val d'Oise, donc ce département qui a connu un grave accident suite à un rodéo urbain ce week-end. Ce phénomène, vous êtes vous-même confronté?
Je ne sais pas du tout si c'est l'hélicoptère que j'ai vu partir. Il était 4h30. Je ne sais pas si c'est l'hélicoptère qui est parti vers Amiens.
Peut-être, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout vous dire. C'est les rodéos urbains, vous y êtes confrontés. On dit qu'il y en a beaucoup dans ce département du Val d'Oise.
Il y en a pas mal, mais le problème qu'il y a, c'est que hier, j'ai vu une personne de l'hôtel de police de Cergy qui me disait ils n'ont pas les moyens, et puis voilà, c'est...
Les policiers vous disent on n'y arrive pas, quoi.
Voilà. Et comme j'y disais, depuis ce qui s'est passé, après, je sais pas, moi, je suis pas enquêteur de police, ce qui s'est passé depuis Villiers-le-Bel, vous avez vu, maintenant, ils n'ont plus le droit de poursuivre, je comprends, parce qu'après, ça se remonte... Mais les services de police, moi, on me l'a dit hier, ils peuvent plus rien faire. Il n'y a pas assez de moyens.
Alors, on va en parler avec Stanislas Godon, qui sera mon invité tout à l'heure à 7h40, représentant du syndicat Alliance, parce que le ministre de l'Intérieur, lui, durcit le ton. Il veut 10 000 contrôles, il veut que les sanctions soient appliquées, parce qu'encore faut-il qu'elles soient appliquées. Vous avez l'impression, vous, que ces jeunes, ils ressentent une forme de sentiment d'impunité, du coup ?
Je pense pas à l'impunité. Je pense que ces jeunes qui sont... moi, j'ai vécu en cité, j'ai vécu du côté de Beaumont-sur-Oise. Donc, le Boyenneval et tout ça, j'ai connu voilà la cité. Mais là, c'est de pire en pire. Et je pense que la plupart des jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes. Et moi, je voudrais passer un message qui est énorme. Arrêtez de faire des bêtises. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas une famille... C'est deux enfants qui sont sur le carreau, c'est des parents qui sont sur le carreau, et c'est un gamin qui est en prison pour une connerie.
À 18 ans. J'appelle ça une connerie.
Sébastien, c'est aussi papa qui parle. Vous êtes papa.
Oui, et je suis en colère, j'ai larmes aux yeux, parce que je vous dis, j'ai pas dormi. Là, j'ai appelé pour envoyer une lettre à la famille, une dépluche et tout ça pour la gamine, pour le gamin. C'est un carnage, là, comme je dis. Là, je suis vraiment en colère. C'est pour ça que la personne, si tout à l'heure, elle peut me rappeler pour me... Moi, je suis vraiment en colère. Je suis papa. Justement, moi, je me suis battu pour beaucoup de choses parce que j'ai le fils de ma compagne, plus qui est autiste. On s'est battu pour ça. Je suis un petit... On se bat et il y a des... J'en veux pas après le gamin qui a fait une connerie. Il a fait une connerie. Il va le payer toute sa vie. Là, qu'est-ce qu'il fait en prison? Il est en train de se dire qu'est-ce que je vais faire, le tribunal. Tribunal de Pontoise, je le connais par cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Voilà.
18 ans. Il a 18 ans, ce jeune qui a percuté ses deux enfants. Il a reconnu les faits. Il a été effectivement placé en détention provisoire. Merci beaucoup, Sébastien, pour votre témoignage. On entend votre colère dans le Val d'Oise face à ces phénomènes et face à ces groupes de jeunes livrés à eux-mêmes. Comme vous dites, on aura la réponse du policier Stanislas Godon dans une petite demi-heure sur RMC, 7h13.
Le témoin du jour.
En attendant, la témoin du jour ce matin, c'est vous, Émilie Philippe. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous, bienvenue sur RMC. Vous êtes éducatrice spécialisée dans la petite enfance et porte-parole du collectif Pas de bébé à la consigne, collectif qui alerte déjà depuis des années sur les difficultés, sur la dégradation des services de garde d'enfants. On revient donc sur cet arrêté publié au journal officiel jeudi dernier qui autorise les crèches à recruter sans diplôme pour pallier à la pénurie de personnel. Comment vous réagissez et surtout, est-ce que ça vous paraît dangereux ?
Alors nous accueillons. Alors cet arrêté qui a été publié est obligatoire puisque c'est lui qui liste les diplômes et certifications requises pour travailler auprès d'enfants. Sauf que il y a un article notamment dans lequel il prévoit de permettre aux personnes éloignées de l'emploi, sous couvert de 120 heures de formation au sein d'une structure d'enfants, de pouvoir être opérationnelles pour s'occuper d'enfants. Donc on va demander à des équipes de professionnels déjà en sous-effectif de devenir des formateurs ou formatrices pour des personnes qui n'y connaissent rien. Donc effectivement, nous on s'oppose à cela parce que c'est le risque en structure d'un épuisement des équipes et puis aussi de potentiellement... Des comportements ou des qui seraient pas forcément adaptés envers les enfants.
Clairement, vous dites les 120 heures de formation, c'est pas du tout suffisant.
Non, c'est pas suffisant aujourd'hui. Je suis éducatrice de jeunes enfants, pas éducatrice spécialisée. C'est vrai que c'est un secteur, la petite enfance, qui est pas encore bien connu et des fois nos métiers sont mélangés. Mais on n'est pas interchangeables. Et éducateur de jeunes enfants, c'est par exemple un travailleur social de bac plus 3. C'est aujourd'hui la formation reconnue comme étant la plus complète pour travailler auprès des enfants. Donc 120 heures, c'est le nombre d'heures pour les assistantes maternelles. Mais des associations d'assistantes maternelles elles-mêmes aujourd'hui trouvent que ce n'est pas suffisant et seraient favorables à une augmentation de cette formation pour pouvoir vraiment avoir des cours plus complets afin d'être mieux armés, outillés quand on arrive sur le terrain.
Et à la fois, Émilie Philippe, le problème c'est que je lisais presque 10 000 postes sont vacants dans les crèches. S'ils ne sont pas pourvus, ça veut dire des places qui vont fermer, ça veut dire aussi des équipes qui vont être encore plus en sous-effectif. Et on a vu que ça posait de nombreux problèmes. Donc, où trouver l'équilibre? Et comment trouver ces personnels?
Alors bah là, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Donc la solution raisonnable pour nous actuellement, elle est de fermer les places quand il n'y a pas les professionnels pour accueillir les enfants. Et cette situation n'est pas nouvelle. Nous, c'est depuis 13 ans qu'on existe et qu'on alerte. Aujourd'hui, on n'est plus au stade d'alerte. La pénurie, elle est avérée, elle s'observe, elle est réelle. Donc nous, ça fait des années qu'on demande d'agir. On a fait 20 propositions qu'on avait transmises à Adrien Taquet. On verra à la rentrée aussi comment saisir le ministre actuel. Mais du coup, voilà, on reste mobilisés.
Donc les parents se débrouillent, ils trouvent des assistantes maternelles par eux-mêmes. Comment ils font pour aller travailler?
Eh bien, là, dans nos propositions, nous avons fait plusieurs, dont un vrai plan de formation ambitieux. Forcément, ça demande des moyens. Seulement, il y a des situations. Ça fait des années que le gouvernement laisse installer des choses. Donc là, nous, aujourd'hui, on a fait des propositions. On demande à être entendus, comme la commission des 1000 premiers jours, comme les professionnels sur le terrain. Donc depuis longtemps, on connaît la situation et il y avait moyen d'enrayer cela. Ça n'a pas été fait.
Pourquoi ces métiers n'attirent plus aujourd'hui?
Eh bien, c'est des métiers où il y a une forte pénibilité, qui sont très mal payés. C'est des métiers encore quasiment exclusivement féminins, avec beaucoup de mères de famille et des horaires qui sont pas forcément non plus très évidentes pour concilier vie de famille et vie professionnelle. Donc il y a un énorme manque de reconnaissance. La petite enfance a été essentielle pendant la crise sanitaire, mais on en a très peu parlé. Donc tout ça mis bout à bout, ce sont des éléments qui font que ce sont plus du tout des métiers attractifs aujourd'hui.
Et le risque, c'est que à la rentrée, ça devienne extrêmement difficile pour les parents de trouver une place, encore plus que d'habitude.
Ben c'est déjà le cas depuis longtemps, malheureusement. C'est déjà le cas. Donc là, c'est pas en quelques semaines que les choses vont s'aggraver, mais en tout cas sur les mois ou années à venir, s'il n'y a pas des décisions importantes et des moyens qui sont pris, oui, ça va devenir de plus en plus compliqué, parce qu'en plus de très nombreuses assistantes maternelles, c'est le premier mode d'accueil en France, faut le rappeler, va y avoir beaucoup de départs en retraite dans les années à venir qui sont pas compensés par les arrivées. Donc oui, il y a de gros moyens à mettre dans la petite enfance pour permettre des améliorations dans le secteur et plus d'accueil.
Ce recrutement de personnel sans contrainte de diplôme ou de formation, c'était une demande des crèches d'élargir le recrutement pour trouver des
gens. En tout cas, le collectif qui est composé de nombreuses organisations professionnelles, syndicales, ça n'a pas du tout, en tout cas de notre côté, une remontée des crèches, bien au contraire. Les crèches et les équipes ont à cœur d'avoir des professionnels qui aient des formations et qui puissent, une fois arrivés sur le terrain, même s'il y a toujours de la formation continue et qu'on peut toujours apprendre, qui ont un minimum de connaissances sur le terrain qui permet d'être opérationnel et de travailler en équipe sans que ce soit les professionnels qui s'improvisent formateurs.
Mais on peut se dire qu'on peut trouver des gens qui savent s'occuper d'enfants, malgré tout, même s'ils n'ont pas fait de diplôme, on peut trouver des gens de confiance. Vous pensez pas?
Alors c'est comme partout, comme dans tous les domaines, il y a aussi des gens diplômés qui sont pas forcément de très grande qualité, mais ça dépend, tout dépend ce qu'on veut, et il y a beaucoup d'autres domaines. Si on transposait les choses, on n'accepterait pas de confier peut-être même nos cheveux à une personne qui n'est pas formée. Donc pourquoi est-ce que nos enfants aujourd'hui, il faut sortir de cette image que s'occuper d'enfants, ce serait simplement jouer avec eux ou leur donner à manger ou changer les couches. C'est tout un ensemble avec un environnement proposer des activités qui soient adaptées, créer une relation de confiance, faire de la prévention. On ne peut pas s'autoriser aujourd'hui à dire s'occuper d'enfants, c'est à la portée de n'importe qui.
On a bien entendu votre message, Émilie Philippe. Merci beaucoup, porte-parole du collectif Pas de bébé à la consigne. Ça fait beaucoup réagir, cette décision d'autoriser les crèches à recruter sans diplôme pour pallier au manque de personnel à la rentrée. 32-16, je vous attends et on continue d'en parler sur RMC ce matin. 7h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À suivre, à 7h10, après le drame de Pontoise où deux enfants ont été renversés par un motard dans le Val d'Oise. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut lutter contre les rodéos urbains. On va en parler avec votre invité, Sébastien.
C'est le représentant du syndicat Alliance Police, Stanislas Godon, qui sera mon invité dans une petite vingtaine de minutes. Mais avant cela, on va aller en Normandie découvrir l'un des derniers fabricants de cloches. C'est notre reportage chez les artisans de nos régions.
Et puis, évidemment, on n'oublie pas la story sport. Léna Marjac viendra nous parler du procès de Benjamin Mendy qui s'ouvre demain en Angleterre. La story sport à suivre sur RMC.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
7h23 sur RMC et sur RMC Story. Très bon réveil à tous.
Les artisans de nos régions.
Et tout l'été, on continue de découvrir les artisans de nos régions à travers la France. Ce matin, nous partons en Normandie pour aller découvrir l'une des deux dernières fonderies en France qui fabrique des cloches. Nous sommes à Villedieu-les-Poêles, c'est dans le département de la Manche. Depuis 150 ans, la maison Cornille Avare, vous allez la découvrir. Vous allez voir, c'est un travail d'orfèvre qui se poursuit à la main. Reportage Alfred Orange.
Ici, pour trouver la fonderie, il suffit de tendre l'oreille. Donc là, on est en plein cœur du village de Villedieu-les-Poêles et on arrive dans un bâtiment en briques qui sent le charbon, un atelier immense où je vais retrouver Paul Bergamo.
Je dirige la fonderie de cloches Cornille Avare à Villedieu. Là, on est dans un atelier qui a un petit peu plus de 150 ans, puisqu'il a été construit en 1865. Ça correspond à l'arrivée du chemin de fer à Villedieu, qui nous a permis de nous sédentariser, d'envoyer des cloches dans le monde entier.
Sous ces charpentes, ça fait un siècle et demi qu'on crée des moules faits d'argile et de crottin de cheval, et ensuite on y verse du métal en fusion à 1100 degrés.
Il y a un temps de séchage incompressible qui fait qu'on s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que pour faire une cloche comme celle qui est devant nous, qui va peser à peu près 350 kilos, ça va s'étaler à peu près sur 6 semaines.
Ces cloches, on peut les entendre à Notre-Dame de Paris, même au Vietnam ou au Texas. Derrière cette production, il y a trois jeunes qui n'ont pas encore 30 ans, Quentin est l'un d'eux.
C'est quelque chose qui rythme la vie, qui va durer et sonner. Donc c'est faire de l'objet d'exception. C'est un peu écrire l'histoire de la fonderie à chaque cloche qu'on fond au sein de l'atelier.
Avec son équipe, ils produisent une centaine de cloches par an.
J'ai récupéré de la transmission de personnes qui sont maintenant retraitées, qui avaient 40 ans d'entreprise. Donc c'est vrai que c'est une fierté aussi de se dire que ces personnes-là ont transmis et que par la suite, ça va être à moi et mon rôle de retransmettre ce savoir-faire aux futurs qui arriveront derrière.
Ah tiens, il y a aussi des visites guidées tous les quarts d'heure ici.
Moi, c'est Léna, je vais être votre guide, et je vais vous montrer comment on fabrique les cloches. Pour chaque cloche que l'on va faire, on va d'abord fabriquer un moule.
Quel est votre prénom, madame ?
Cathy, on vient de Charleroi. Ça fait plus ou moins 6 heures de route. Oui, c'est très beau à voir, la sonorité, les différentes façons d'avoir une cloche, le son et tout, c'est très très beau.
C'est mieux celui-là.
C'est les dessins en plus.
Elle est gravée.
Ouais. On prend celle-là ?
Voilà.
Très bonne journée, merci de votre visite. Merci,
et aussi. Bon séjour pour Normandie.
Merci. Merci. Merci.
Au revoir.
Au revoir,
merci.
Voilà, reportage signé Alfred Orange en Normandie. Il est 7h26. Place au sport à présent.
La story sport.
Bonjour Léna Marjac.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre story sport ce matin sur ce procès qui s'est ouvert en Angleterre hier. Procès d'une ancienne star du club de foot de Manchester United, Ryan Giggs, accusé de violence sur son ex-compagne. Et demain s'ouvre à Chester celui de l'un de nos champions du monde.
Et oui, alors ces deux procès la même semaine, c'est un hasard du calendrier judiciaire. Benjamin Mendy est accusé par 7 femmes de 8 viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. Alors c'est un footballeur connu et reconnu, champion de France avec Monaco en 2017, champion du monde en 2018, mais on retient surtout son image en dehors des terrains. Nicolas Pelletier, journaliste RMC Sport, a enquêté sur la personnalité du défenseur.
Dans un groupe, il est souvent décrit comme l'ambianceur et ce n'est jamais bon signe pour un joueur de foot quand on est décrit comme l'ambianceur et pas assez pour ses qualités sportives. Il est addict à la fête, il pouvait prendre des jets privés et partir à l'autre bout de l'Europe pour faire des soirées avant de rentrer au petit matin, s'entraîner.
Une vidéo avait justement circulé en 2019, on le voyait en boîte de nuit et le lendemain en conférence de presse, Pep Guardiola, son entraîneur à Manchester City, avait réagi en expliquant que le joueur faisait ce qu'il voulait et qu'il n'était pas son père.
Alors son procès va se tenir pendant 6 semaines, quelle est la défense de Benjamin Mendy ?
Alors le français plaide non coupable, il nie les chefs d'accusation, les 10 chefs d'accusation et ses avocats ne souhaitent pas prendre la parole avant la fin de la procédure. On a donc très peu d'informations, mais en tout cas Benjamin Mendy n'a plus joué de match depuis août 2021 et Manchester City qu'il a recruté pour plus de 61 millions d'euros en 2017 l'a suspendu dès le début de l'affaire. On avait tenté d'avoir quelques nouvelles auprès de Pep Guardiola à l'époque au micro de RMC Sport.
Bonjour Pep, une question autour de Benjamin Mendy. On n'a pas beaucoup de nouvelles depuis la France. Est-ce que vous avez pu lui parler et comment vous jugez la situation dans laquelle vous êtes avec lui ?
Alors, pas de réponse. Un long silence avant que l'on demande aux journalistes de passer à une autre question. Alors, Mendy est sous contrôle judiciaire depuis janvier dernier. Le rendu du procès sera énoncé le 16 septembre prochain.
Le championnat anglais a repris le week-end dernier, sans Mendy, mais avec d'autres joueurs soupçonnés là aussi de violences sexuelles.
Oui, lors de la rencontre entre Crystal Palace et Arsenal vendredi dernier, un avion a survolé le stade avec une banderole. Dégagez les violeurs du terrain. Cette phrase ciblait Thomas Partey, milieu défensif d'Arsenal accusé de viol. Alors les organisateurs du championnat anglais ont décidé de rendre obligatoire une formation au consentement sexuel pour les joueurs. Yael Mellul, présidente de l'association féministe Femmes et Libres, regrette que l'on soit obligé d'en arriver là.
Ce type d'enseignement se fait dans la cellule familiale, où on apprend à respecter les femmes. C'est extrêmement choquant de devoir apprendre cela à des adultes, à des hommes.
Et cette demande de formation a été portée par des associations féministes britanniques et elles aimeraient aller plus loin, que chaque joueur mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle soit tout simplement suspendu par son club.
Léna Marjac pour la Story Sport sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.
Le journal de 7h30 sur RMC avec Alexandra Sirgoran. Bonjour Alexandra.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Plus besoin de diplôme pour s'occuper de vos enfants. Un arrêté polémique pris par le gouvernement pour remédier au manque de personnel dans les crèches. La résidence de Donald Trump perquisitionnée cette nuit par le FBI. L'ancien président américain se dit victime d'une persécution politique. Et puis match retour de la Ligue des Champions, Monaco-PSV Eindhoven ce soir. L'heure de la dernière chance pour l'AS Monaco.
On commence donc par cette mesure qui inquiète le secteur de la petite enfance.
Des personnes sans diplôme ni expérience pourront travailler dans les crèches collectives et les jardins d'enfants. Ce décret entrera en vigueur à la fin du mois pour la rentrée, justement pour remédier au manque de personnel dans les structures. Mesure d'urgence plutôt bienvenue pour certains professionnels du secteur, appréhension pour d'autres. Reportage de Florian Chevalet.
Cette possibilité donnée aux crèches d'embaucher des personnes non qualifiées sera forcément source d'inquiétude selon Françoise Brenienec, animatrice au sein de la Maison des Mille Jours, association qui vient en aide aux parents.
Les parents, quand ils confient leur enfant dans une crèche, c'est vrai qu'ils ont à cœur d'être écoutés, que leur enfant soit bien pris en charge, bien accompagné. Donc je pense que des personnes non qualifiées vont avoir du mal à répondre aux angoisses des parents.
Mais attention, le décret prévoit quand même des conditions pour qu'une structure puisse embaucher du personnel non qualifié. Seulement une personne par crèche sera autorisée à travailler sans avoir les diplômes. Elle devra être formée et dans un premier temps forcément accompagnée d'un professionnel. De quoi rassurer Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche.
On ne va pas remplacer tous les professionnels de la petite enfance par des gens non diplômés. La petite dérogation créée par l'arrêté du 4 août ne réglera pas du tout le problème de la pénurie.
Pour régler justement le problème de la pénurie, il faudra, selon elle, ouvrir massivement des places de formation dans toutes les régions. Éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture ou infirmiers, il manquerait environ 10 000 professionnels dans les crèches aujourd'hui en France.
Et vous avez la parole sur RMC au 32-16. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela vous inquiète pour vos enfants? Feriez-vous garder vos enfants dans une crèche qui emploie des personnels non diplômés? On en parle tous ensemble. On y reviendra tout à l'heure à 8h10 et vous pourrez dialoguer avec Cyril Godefroy qui représente le syndicat national des professionnels de la petite enfance.
La troisième vague de chaleur se poursuit en France avec un pic attendu en fin de semaine et avec le manque de pluie, la sécheresse s'aggrave dangereusement sur tout le territoire. Une centaine de communes sont privées d'eau potable. D'autres ont reçu des restrictions de la part des préfectures. Et ce n'est pas au goût de tous les élus. Le maire de Colmar les conteste, notamment parce qu'elles empêchent l'arrosage des massifs floraux de la ville.
C'est un arrêté totalement absurde qui ne tient pas compte des réalités locales. Toute autre alimentation en eau est réalisée à partir de la nappe phréatique d'Alsace. C'est le plus grand réservoir d'eau en France. Donc on n'a strictement aucun problème d'approvisionnement en eau. On a de magnifiques jardinières, elles ont besoin d'un verre d'eau chaque nuit qui est apporté au goutte à goutte et aujourd'hui ça n'est plus possible. Si on avait été à Paris, c'était possible. Si on avait été à Strasbourg, c'était possible. Et je n'ai aucun élément objectif qui peut justifier cette discrimination à l'égard de Colmar.
Une demande de dérogation a été envoyée à la préfecture du Haut-Rhin par lettre hier. Conséquence de la sécheresse encore, ces incendies à répétition en France. La France fait face à une série de feux de forêt qui ne sont pas encore tous maîtrisés, notamment dans l'Aveyron. 650 hectares sont déjà partis en fumée. Plus d'un millier de personnes évacuées. Des moyens supplémentaires sont déployés ce matin, notamment 3 Canadair. La résidence de Donald Trump perquisitionnée cette nuit, c'est lui-même qui l'a annoncé. Une perquisition de sa célèbre propriété de Mar-a-Lago en Floride, menée par le FBI. Bonjour Garance Munoz.
Bonjour.
L'ancien président des États-Unis se dit victime d'une persécution politique. Garance, pourquoi la résidence de Donald Trump a-t-elle été perquisitionnée ?
Eh bien, pour le moment, le FBI n'a fait aucune déclaration, mais cette perquisition pourrait être justifiée par au moins 2 affaires. D'abord, lors de son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump est parti en emportant 15 cartons de documents, dont certains classés secret défense. Or, aux États-Unis, le président n'a pas le droit de conserver des documents après son mandat, d'autant que Donald Trump est soupçonné d'avoir déjà voulu se débarrasser d'éléments compromettants durant sa présidence. Le personnel de la Maison-Blanche trouvait régulièrement des liasses de papier bouchant les toilettes, d'après un journaliste du New York Times. Mais l'enquête pourrait aussi concerner les événements du 6 janvier 2021 et le rôle qu'a joué Donald Trump lorsque ses partisans ont envahi le Capitole. Donald Trump qui a vivement réagi à cette perquisition, il dénonce un harcèlement politique et accuse les démocrates de vouloir l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2024.
Merci Garance Munoz. Face à la Chine, Taïwan riposte. L'armée taïwanaise mène aujourd'hui un exercice d'artillerie à balles réelles pour simuler la défense de l'île contre une potentielle invasion chinoise. Les tensions entre les deux pays sont montées d'un cran depuis la semaine dernière, après le passage à Taïwan de la numéro 3 du gouvernement américain, Nancy Pelosi. Depuis cette visite, la Chine a lancé d'importantes manœuvres militaires autour de l'île.
L'actualité du football à 7h36 sur RMC. Le troisième tour de qualification de la Ligue des Champions. Monaco se déplace sur la pelouse du PSV Eindhoven ce soir.
Oui, l'AS Monaco n'a pas le droit à l'erreur. Après le nul un partout du match aller mardi dernier, les joueurs de la Principauté doivent gagner ce soir. Un succès les enverrait en barrage d'accès à la Ligue des Champions, là où ils avaient échoué il y a un an. Maxime Tillette.
Ne pas revivre le cauchemar d'août 2021. Face au Shakhtar Donetsk, c'est au bout des prolongations sur un but contre son camp que l'ASM mettait fin à ses rêves de Ligue des Champions. Le gardien Alexander Nubel s'en rappelle et veut se servir de cette expérience.
Nous avons une année de plus passée entre nous. Tout le monde a joué les deux derniers matchs. Nous sommes forts ensemble et c'est un avantage. C'est un match important pour une qualification. Je pense que l'expérience sera la clé principale pour ce match comparé à l'an dernier.
Même son de cloche pour Philippe Clément, l'entraîneur belge est confiant. Après la victoire 2-1 de ses hommes à Strasbourg ce week-end, il les sent en mesure de s'imposer.
Favori, ça c'est un mot intéressant pour les journaux. Pour moi, mentalement, nous sommes les favoris. Parce que je suis certain que physiquement, nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain.
Et en cas de qualification ce soir, les Monégasques rejoindraient alors les Écossais des Glasgow Rangers ou les Belges de l'Union Saint-Gilloise en barrage d'accès à la Ligue des Champions.
Le match est à suivre en direct et en intégralité sur RMC à partir de 20h30 ce soir.
Les courses, le quintet se joue sur l'hippodrome de Deauville à 18h ce soir.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, le favori c'est le numéro 2, Harper, l'outsider c'est le numéro 6, San Cristobal, le 2 et le 6. La course du quintet est à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Alexandra Sirgan sur RMC, il est 7h38.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre sur RMC, c'est le syndicaliste policier Stanislas Godon, délégué général d'Alliance. Il va réagir à l'annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui veut 10 000 opérations de contrôle contre les rodéos urbains. Est-ce que ça peut suffire ? Il sera en studio avec nous. Il va répondre à toutes vos questions. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Justement, ça vous fait réagir hein, sur Direct Studio. Je lis vos réactions. Il serait judicieux de pouvoir réserver des lieux sécurisés pour cette pratique des parkings fermés, nous dit par exemple Nicolas. Plus efficace selon lui que de mobiliser les forces de l'ordre. Pour Christian, la solution, c'est que la police puisse intervenir comme au Royaume-Uni. Vous continuez à réagir et on en parle dans un instant. Et puis on parle aussi des crèches hein, ce matin sur RMC. Le gouvernement qui veut les autoriser à recruter du personnel non diplômé pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre. On vous a demandé si vous étiez inquiet et Timothée a réagi. Je suis éducateur spécialisé, nous dit-il. Si on embauche des personnes non qualifiées dans les crèches, eh bien on va augmenter le risque de négligence, de maltraitance, dit-il. Dans ce cas, embaucher des infirmiers non qualifiés, lance-t-il avec ironie. En revanche, pour Géraldine, eh bien, le diplôme ne fait pas tout. Vous continuez à réagir sur Direct Studio. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bienvenue à tous sur RMC et sur RMC Story. Il est 8h20.
L'invité du jour.
Bonjour Stanislas Godon.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau d'RMC. Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général adjoint du syndicat de police Alliance. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a durci le ton hier sur les rodéos urbains après l'accident de Pontoise ce week-end. Deux enfants de 7 et 11 ans grièvement blessés. Il demande un renforcement des contrôles. Ces rodéos urbains, on a l'impression qu'on en parle tous les ans, chaque été, et qu'il faut toujours un drame pour qu'il y ait une réaction.
On en parle tous les ans, effectivement, vous avez raison de le souligner, depuis 2018, depuis qu'il y a une loi qui a été promulguée pour justement renforcer l'arsenal législatif, eh bien, on s'aperçoit que finalement, il y a peut-être une application, notamment de la part de la chaîne pédale, parce que les policiers, vous savez, ils procèdent à des contrôles, ils procèdent à des opérations, ils interpellent, d'ailleurs, ça a été souligné par le garde des Sceaux lui-même, mais derrière, moi je pose la question...
1200 interpellations en deux mois.
Et oui, mais je pose la question, quelles ont été les condamnations et quelle est l'effectivité et l'exécution notamment des peines qui ont été prononcées, parce que c'est ça en fait le débat.
Vous le savez, c'est des profils que vous avez suivis. Qu'est-ce qui se passe quand vous
On n'a pas d'état statistique notamment de la part du garde des Sceaux. Et d'ailleurs même dans l'étude d'impact qui a été notamment organisée par le Parlement pour évaluer l'impact de cette loi de 2018, eh bien on nous dit oui, il y a eu des délits qui ont été condamnés, mais on nous dit pas dans quelle mesure ils ont été condamnés. Et est-ce que, parce que je le rappelle quand même, l'arsenal législatif, il est extrêmement ferme. Un an de prison si vous êtes simplement coupable, notamment d'un rodéo urbain. Après, il y a des circonstances aggravantes et ça peut aller jusqu'à 5 ans. Donc ça veut dire que
la loi est suffisante.
La loi, en tout cas, avec ses peines complémentaires, je parle par exemple de la confiscation du véhicule, on peut parler de l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de passer le permis de conduire pendant 3 ans. Enfin, il y a tout un arsenal, mais... De quelle manière est-il appliqué? Parce que vous savez, les policiers, ils peuvent faire 10 000 contrôles, évidemment, parce qu'ils obéissent aux ordres et aux instructions du ministre de l'Intérieur. Mais si derrière, il n'y a pas une continuité de cette chaîne pénale, eh bien, les forces de l'ordre vont encore une fois s'épuiser. On va leur demander des comptes, mais on ne demande pas beaucoup de comptes à ce qui est au bout de la chaîne pénale, notamment.
Donc vous renvoyez la balle au magistrat.
C'est pas la balle. Ouais. C'est plus important que ça. C'est plus important qu'une balle, quand même. Il faut le souligner. Souvent, on nous parle de cette chaîne pénale, de ce tandem entre le ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, et ben nous, ce qu'on demande, c'est que ce tandem, il fonctionne d'un bout à l'autre avec des mandats de dépôt pour ceux qui, je le rappelle quand même, mettent en danger la vie d'autrui. Et ce sont pas les familles, notamment, de ces deux filles qui, par exemple, nous diront le contraire.
Ces rodéos, ils continuent, ça veut dire qu'il y a une forme de sentiment d'impunité chez ces jeunes?
Bien sûr, parce que...
Ils ont l'impression qu'ils risquent rien.
Quand vous êtes interpellé, quand on peut les interpeller, parce que souvent, les instructions, elles sont pas très claires, il y a eu... parfois, je dirais, des dysfonctionnements entre la préfecture de police, la direction de la sécurité publique. Tout le monde n'a pas été, je dirais, dans le même bateau pour dire et protéger notamment les policiers, parce que il s'agirait pas non plus que ce soit les policiers qui se retrouvent à chaque fois au tribunal, parce que eux, ils ont fait leur travail pour procéder à l'interpellation, notamment de ces individus qui, je le rappelle, mettent en danger la vie d'autrui.
On a le sentiment que vous retrouvez souvent, et d'ailleurs certains policiers le disent, souvent impuissants face à ces rodéos urbains. Est-ce que vous pouvez nous redire quelle est la consigne qu'on vous donne? C'est-à-dire qu'on vous dit, n'allez pas au contact, n'engagez pas de poursuite, vous regardez ça de loin? Vous êtes conduit à regarder ça de loin?
Alors, quand on nous autorise à faire ce qu'on appelle des courses-poursuites ou des chasses ou des prises en charge du véhicule plutôt, ça c'est dans notre jargon, on nous dit surtout attention à ne pas prendre de risques, à ne pas faire prendre de risques à ces individus. Je rappelle quand même que ces individus, ils font des roues arrière sur des voies notamment rapides, que parfois ils circulent en plein milieu des centres urbains et qu'ils circulent au milieu des citoyens, ça faut aussi le rappeler. Et surtout, ils peuvent mettre en danger, d'ailleurs... même l'intégrité physique des policiers. Donc les instructions sont pas très claires, le cadre juridique pour protéger les policiers dans ces interpellations ne sont pas très claires. Nous, ça fait depuis des années qu'on demande à ce que on inverse la charge de la preuve et que ce soit pas aux policiers d'être mis en accusation. Il faut prouver que le policier sera responsable notamment d'un suraccident, mais d'abord donnons les moyens à la police d'intervenir et puis demandons à la justice de faire son travail au bout de la chaîne.
C'est quoi, dès qu'on est dans les quartiers, on a peur d'un d'un soulèvement du quartier dès qu'il y aurait le moindre incident.
Tout le monde parle de Villiers-le-Bel, tout le monde parle de ces émeutes qui ont eu lieu notamment sur le territoire national. Je crois qu'il ne faut pas s'interdire le débat notamment de l'intervention. Nous l'avions dit lorsque nous étions auditionnés dans le cadre de la loi de 2018. Il faut des instructions claires pour les policiers, sinon je tiens quand même à signaler que si vous procédez à des interpellations a posteriori, vous ne pourrez pas constater par exemple que l'individu a fait un rodéo sous l'emprise de l'alcoolémie ou des stupéfiants, ce qui est une circonstance aggravante. C'est juste un exemple comme ça, très concret, pratico-pratique pour les policiers.
Alors ça fait beaucoup réagir les auditeurs d'RMC ce matin au 32-16 et sur l'appli RMC. On est avec Thierry qui est en ligne avec nous ce matin. Bonjour Thierry.
Bonjour à tous.
Vous aviez une question pour Stanislas Godon.
Pour Stanislas Godon, ou pour les ministres là qui veulent absolument sanctionner, parce que justement ces rodéos se font dans des zones urbaines où il y a beaucoup de personnes qui circulent et on voit après avec des accidents dramatiques comme vient de se passer. Est-ce qu'il serait pas plus judicieux justement d'organiser, d'encadrer cette pratique en réservant des lieux sécurisés pour ces jeunes qui souhaitent faire des wheelings, qui souhaitent faire des cascades avec leur moto?
Alors, Stanislas Godon, réservé, on a plusieurs auditeurs qui soulèvent cette question, réserver des espaces finalement, des parkings, où au moins il ne risquerait de percuter personne.
Alors d'abord, rappeler que braver l'interdit, ça, c'est quand même un peu dans l'air du temps. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons affaire quand même à souvent des jeunes qui trouvent bien plus attrayant, notamment pour faire des vidéos quand c'est en plein milieu du centre-ville. Je rappelle aussi que, par exemple, c'était les Dalton qui avaient fait des vidéos, qui avaient défrayé la chronique, qui d'ailleurs avaient eu des condamnations extrêmement faibles. Donc je suis pas sûr que ce soit la solution. Nous, on prend plutôt la fermeté. Vous savez, je vais prendre un exemple très concret. Quand il y a eu ce phénomène de mode avec les chiens dangereux, avec les catégories 1, catégorie 2, il y a une loi qui a été votée et qui a été appliquée de manière extrêmement ferme. Aujourd'hui, on en est où? Eh bien, effectivement, ce phénomène de mode est passé.
Mode,
ouais. Oui, bien sûr qu'il est passé.
Donc ça peut passer de mode. Les rodéos peuvent passer de mode.
Oui, mais à condition qu'on applique cette politique de fermeté. Parce que sinon, ça va continuer. Chaque été, on en reviendra avec des drames, on en reviendra avec ce sentiment d'impunité qui s'installe.
Vous dites qu'il faut interpeller tout de suite dès que c'est possible. Est-ce qu'il faut aller, selon vous, jusqu'à la méthode anglaise? On en parle beaucoup parce qu'elle est relativement spectaculaire. Les Anglais, eux, ils n'hésitent pas à aller au contact. C'est-à-dire quasiment renverser les jeunes sur leur moto pour pouvoir les interpeller. Est-ce qu'il faut aller jusque-là?
Alors, s'il n'y a pas l'arsenal répressif pour permettre d'interpeller, il faudra à un moment trouver des solutions. Parce qu'on ne va pas compter tous les étés des jeunes enfants qui sont entre la vie et la mort. Donc, d'abord, rappeler que le système anglais, c'est un système qui quand même a fait ses preuves. Diminution de plus de 35% des délits constatés, notamment avec les fuites de ces rodéos. Je rappelle aussi que l'accidentogénéité de ces interventions, elle a démontré qu'il y avait très peu de blessures, notamment.
Donc ça ne provoque pas forcément de suraccident.
Pas forcément de suraccident. Attention, c'est très encadré. Il y a une formation spécifique. Et là, il ne faudrait pas qu'on prenne une décision plutôt, et puis qu'on ne mette pas les moyens, notamment de la formation continue des policiers qui sont sur le terrain.
Donc vous dites que ça ne doit pas être, malgré tout ce que ça provoque comme réaction, vous dites que ça ne doit pas être un tabou.
C'est pas un tabou. Servons-nous notamment des autres pays européens et avec leur bilan. Je rappelle que quand même, ce qui est assez curieux, c'est que cette méthode d'intervention, elle date de 2018 en Angleterre, pratiquement au même moment que la loi de 2018 pour lutter contre les rodéos. Ça pose quand même question.
Il y a un dernier point qui est mis en avant par le ministre de l'Intérieur, c'est la confiscation des motos, voire la destruction. Est-ce que c'est appliqué souvent? Est-ce que ça fonctionne?
Alors c'est appliqué parce que maintenant ça fait partie aussi des peines complémentaires, la confiscation quasiment systématique ou obligatoire du véhicule. C'est une des solutions, ce n'est pas que ça, parce que lorsque vous retirez du circuit ces motos, il faut rappeler quand même que soit ils peuvent en voler d'autres, soit ils peuvent s'en racheter, ça c'est pas un souci. Donc il y a la partie matérielle et puis il y a la partie individuelle, la partie humaine qu'il va falloir également traiter. Vous savez, c'est pas simplement une solution, ce sont des solutions qu'il faut mettre en œuvre.
Merci beaucoup. Merci Stanislas Godon d'être venu ce matin sur RMC. Je rappelle que vous êtes le délégué général adjoint du syndicat de Police Alliance.
Merci beaucoup.
À vous. Bonne journée à vous. Il est 7h50 sur RMC.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.
Et à suivre sur RMC, Place à la Culture, c'est votre rendez-vous dans la matinale d'RMC. L'été d'Angèle Châtelier. Ce matin, on va rendre un hommage ensemble. Hommage à Olivia Newton-John, décédée hier soir aux États-Unis. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h53 sur RMC et sur RMC Story.
L'été d'Angèle.
L'été d'Angèle avec Angèle Châtelier. Bonjour,
bonjour
Angèle.
Sébastien, bonjour à tous.
Les coups de cœur d'Angèle, les coups de cœur culturels tous les matins. Et on voulait revenir évidemment ce matin sur la disparition d'Olivia Newton-John. On a appris son décès hier soir. Olivia Newton-John, connue pour son rôle mythique dans le film Grease. Elle est décédée à l'âge de 73 ans.
Et oui, l'image d'Olivia Newton-John, c'est avant tout celle de Sandy Olson, la sage lycéenne aux cheveux blonds devenue bouclée et laquée alors qu'elle enfile son ensemble noir et son perfecto pour cette scène historique de la comédie musicale Grease et cette chanson évidemment devenue légendaire.
Classique de Grease.
Le classique. Et lorsque Grease sort en 1978, Olivia Newton-John a une trentaine d'années. Ça fait déjà 15 ans qu'elle foule les scènes, celles des télécrochets de son pays d'origine, l'Angleterre d'abord, puis les charts américains. En 1974, elle se classe numéro 1 aux États-Unis avec l'un de ses premiers grands succès. I'm not trying to make you feel uncomfortable. I'm not trying to make you anything at all. D'ailleurs, la même année, Sébastien, et on a tendance à l'oublier, qu'elle représente le Royaume-Uni à l'Eurovision avec cette chanson « Long Live Love » et elle termine quatrième derrière ABBA. Alors il y a aussi la country hein, pour laquelle elle se prend de passion lorsqu'elle débarque aux États-Unis. Olivia Newton-John remporte même un prestigieux Grammy Awards, celui de l'artiste féminine country de l'année, face à la grande Dolly Parton.
Mais ce qui change sa vie, c'est donc le succès du film Grease.
Oui, effectivement, il faut bien se rendre compte. Hein, rien qu'en France, le film fait plus de 5 millions d'entrées au cinéma. C'est un record pour une comédie musicale. Et vous voyez, hein, nous vous parlions de cette scène mythique avec John Travolta, Olivia Newton-John avec son ensemble noir moulant son perfecto. Eh bien, la tenue originale a été adjugée aux enchères pour plus de 400 000 dollars.
Ouais, il formait un duo mythique hein, avec John Travolta. John Travolta qui a réagi au décès de la chanteuse hier soir.
Oui, ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable, a-t-il écrit sur Instagram en signant votre Danny. Danny étant son personnage dans Grease.
Ça va donner à tout le monde ce matin envie de revoir le film Grease qui avait mieux marché en France que Les Demoiselles de Rochefort ou que West Side Story. Olivia Newton-John qui est décédée hier. Elle luttait depuis 30 ans hein, contre un cancer du sein.
Un vrai combat hein, pour lequel elle a créé la fondation Olivia Newton-John. Ce cancer aura fini par l'emporter après des années passées à enchaîner les albums puisqu'elle a préféré rester sur sa carrière de chanteuse en dévoilant une quarantaine d'albums de country et de pop rock ces dernières années.
On va l'écouter un peu.
Allez Sébastien, lancez-vous.
Oui, bien sûr.
On veut voir la scène.
C'est pas pour tout de suite. Olivia Newton-John, voilà. On a découvert aussi l'autre facette de sa carrière parce que c'est vrai qu'on finalement ne la connaissait que pour Grease.
Non, il n'y a pas que ça.
Je ne sais pas qu'elle avait sorti
belle carrière.
Autant de disques. Angèle Châtelier, l'été d'Angèle, tous les matins, juste avant 8h. Merci beaucoup, à demain. Dans un instant, la météo d'Anthony Casmarek et le journal de 8h.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.